Postface. Près d'un demi-siècle s'est écoulé depuis que John Kennedy a été assassiné à Dallas, mais deux questions subsistent. Lee Oswald est-il vraiment l'homme qui a pressé la détente? Et si oui, a-t-il agi seul? Rien de ce que j'ai écrit dans 22-11-63 n'apportera de réponse à ces questions. Car le voyage dans le temps est juste un instrument de mise en perspective intéressant. Mais si, comme moi, vous êtes curieux de savoir pourquoi ces questions subsistent, je pense pouvoir vous offrir une réponse satisfaisante qui tient en deux mots, Karen Carlin. Même pas une note de bas de page dans un livre d'histoire, juste une note de bas de page de note de bas de page. Et pourtant. Jack Ruby était propriétaire d'une boîte de striptease à Dallas, le Carousel Club. Carlin, dont le nom du burlesque était Little Lynn, y était danseuse. Le soir de l'assassinat de Kennedy, Ruby reçoit un appel de Miss Carlin, en quête désespérée d'un prêt de $25 pour payer son loyer de décembre, sous peine d'être jeté à la rue. Pouvait-il les lui avancer? Jack Ruby, qui avait d'autres choses en tête, lui répliqua vertement. À vrai dire, c'était la seule façon de répliquer que Sparky Jack de Dallas semblait connaître. Il était catastrophé que le président qu'il vénérait ait été tué dans sa ville natale. Et il n'avait cessé de répéter à des proches que c'était une chose terrible pour Mrs. Kennedy et ses enfants. Il était absolument malade à l'idée que Jackie serait obligée de revenir à Dallas pour le procès d'Oswald. La veuve du président allait être transformée en spectacle national, disait-il. On se servirait de son chagrin pour vendre des journaux à sensation. À moins, bien sûr, que Lee Oswald n'ait la bonne idée de casser sa pipe. Tout le monde au commissariat de police de Dallas connaissait Jack Ruby, au moins de vue. Lui et son épouse, c'est ainsi qu'il désignait son teckel Sheba, faisaient de fréquentes visites au bureau de la police de Dallas, où il distribuait des entrées gratuites pour ses différents clubs. Et lorsque les flics s'y pointaient, il les arrosait de consos gratuites. Donc, personne ne fit particulièrement attention à lui quand il se présenta au commissariat le samedi 23 novembre. Au moment où Oswald était exposé à la presse, clamant son innocence et affichant un œil au beurre noir, Ruby était là, armé. Oui, encore un calibre 38, mais un Colt Cobra cette fois, et tout à fait déterminé à abattre Oswald. Mais la pièce était bondée. Ruby se trouva repoussé vers l'arrière et Oswald fut emmené. Donc Jack Ruby renonça. Le lendemain, dimanche, en fin de matinée, il se rendit au bureau de la Western Union, à une rue des bureaux de la police de Dallas, pour envoyer un mandat de $25 à Little Lynn. Puis il alla faire un tour du côté de la boîte des flics. Il supposait qu'Oswald avait déjà été transféré à la prison du comté de Dallas, et il fut surpris de voir une foule rassemblée devant le commissariat. Il y avait des journalistes, des fourgons de télévision et l'échantillon ordinaire de badauds. Le transfert n'avait pas eu lieu dans les délais prévus. Ruby avait son revolver sur lui, et il s'introduisit dans le garage du commissariat. Facile. Certains des flics lui ont même dit « salut », et Ruby leur a renvoyé leur salut. Oswald était encore dans les étages. Au dernier moment, il avait demandé à ses geôliers s'il pouvait enfiler un chandail parce qu'il y avait un trou dans sa chemise. Le détour pris pour aller chercher le chandail prit moins de 3 minutes, mais cela suffit. La vie prend des virages à 180 degrés. Ruby atteignit Oswald à l'abdomen. Tandis qu'un tas de flics lui tombait sur le râble, Sparky Jack réussit à gueuler. « Hé, les gars, je suis Jack Ruby! Vous me connaissez tous, là !» L'assassin de Kennedy mourut peu de temps après au Parkland Hospital, sans avoir fait de déclaration. Parce qu'une stripteaseuse était en panne de $25 et qu'un cabot à la noix voulait enfiler un chandail, Oswald n'a jamais été jugé pour son crime. Et il n'a jamais vraiment eu l'opportunité de l'avouer. Son ultime déclaration sur son rôle dans les événements du 22 novembre 63 fut « Je suis un bouc émissaire ». Les controverses qui en résultent, quant à savoir s'il disait ou non la vérité, n'ont jamais cessé. Au début du roman, Al, l'ami de Jake Epping, évalue la probabilité qu'Oswald ait agi seul à 95%. Après avoir lu une pile presque aussi haute que moi de livres et d'articles sur le sujet, j'évaluerai la probabilité à 98%, voire 99%. Parce que tous les comptes rendus, y compris ceux des tenants des théories du complot, racontent tous la même banale histoire américaine. Celle d'un dangereux petit affamé de gloire qui s'est trouvé au bon endroit pour exploiter sa chance. Les probabilités pour que les événements se produisent exactement comme ils se sont produits étaient-elles faibles? Oui. Mais il en est ainsi des chances de gagner à la loterie. Or, chaque jour, quelqu'un gagne. Les documents les plus utiles que j'ai lus dans la phase de préparation à l'écriture sont probablement « Case Closed » de Gerald Posner, « Legend » d'Edward J. Epstein, un truc barré à la Robert Ludlum, mais sympa, « Oswald, un mystère américain » de Norman Mailer et « Mrs. Payne's Garage » de Thomas Mailon. Ce dernier offre une brillante analyse des tenants de la conspiration et de leur besoin de faire répondre un événement quasi aléatoire à un ordre. Mailer aussi a écrit un bouquin remarquable. Il dit qu'il a démarré son projet, qui comprend des entretiens approfondis avec des Russes qui ont connu Lee et Marina à Minsk, avec la conviction qu'Oswald était victime d'un complot, mais qu'au bout du compte, il a fini par se rallier, à contre-cœur, aux conclusions pataudes de cette brave commission Warren, à savoir Oswald, tireur solitaire. Il est extrêmement difficile pour quelqu'un de raisonnable de croire le contraire. Rappelez-vous le rasoir d'Occam. L'explication la plus simple est généralement la bonne. J'ai aussi été très impressionné, profondément ému et bouleversé par ma lecture de « Mort d'un président » de William Manchester. Il se trompe complètement sur certaines choses. Il est porté aux envolées lyriques. Il évoque une Marina Oswald aux yeux de lynx, par exemple. Son analyse des mobiles d'Oswald est tout à la fois hostile et superficielle. Mais son travail colossal, publié 4 ans seulement après cette heure fatidique à Dallas, et donc le plus proche dans le temps de l'événement, fut rédigé alors que la plupart des protagonistes étaient encore vivants et leurs souvenirs encore vivaces. Fort de l'approbation conditionnelle de Jacqueline Kennedy à son projet, Manchester put bénéficier des témoignages de tous. Et bien que sa relation des suites de l'assassinat soit ampoulée, son récit des événements du 22 novembre est d'une précision à faire froid dans le dos. L'équivalent écrit du film de Zapruder. Enfin, disons les témoignages de presque tous. Pas celui de Marina Oswald, cependant, ce qui peut expliquer la description sévère que Manchester a faite d'elle. À la suite de l'acte de lâcheté commis par son mari, Marina, encore en vie à ce jour, était attentive aux meilleures opportunités pour elle. Et qui pourrait le lui reprocher? Ceux qui voudraient lire l'intégralité de ses souvenirs les trouveront dans « Marina and Lee » de Priscilla Johnson Macmillan. J'attribue personnellement peu de foi à ses dires, sauf corroborés par d'autres sources, mais je salue, non sans une certaine réticence, il est vrai, son aptitude à la survie. J'ai tenté pour la première fois d'écrire ce livre en 1972. J'ai abandonné le projet parce que la recherche qui l'aurait impliquée semblait vertigineuse pour un homme occupé par l'enseignement à plein temps. Il y avait une autre raison. Même 9 ans après les faits, la blessure était encore trop fraîche. Je me réjouis d'avoir attendu. Lorsque j'ai finalement décidé de m'y atteler, je me suis tout naturellement tourné vers mon vieil ami Russ Dorr pour m'aider dans le travail de recherche. Il m'avait déjà procuré un formidable réseau d'informateurs pour un autre livre au long cours, Le Dôme, et il a répondu une fois de plus à l'appel. Je vous écris cette postface entourée par des monceaux de documents de recherche, les plus précieux étant les vidéos que Russ a tournées durant nos expéditions extensives et exténuantes à Dallas, et la pile de 30 cm de haut de tous les courriels reçus en réponse à mes questions sur absolument tout, des séries mondiales de 1958 au dispositif d'écoute du milieu du siècle. C'est Russ qui a localisé la maison d'Edwin Walker, laquelle se trouve être située sur le trajet du cortège du 22 novembre. Le passé s'harmonise. Et c'est encore Russ qui, après des recherches acharnées dans diverses archives à Dallas, a retrouvé l'adresse probable en 1963 de cet homme des plus étranges, George de Morenchild. À propos, où se trouvait Mr. de Morenchild le soir du 10 avril 1963 ? Probablement pas au Carousel Club, mais s'il disposait d'un alibi pour la tentative manquée contre le général, je n'ai pas été en mesure de le découvrir. Je déteste vous importuner avec mes laïus de réception d'Oscar. Les écrivains qui font ça m'assomment considérablement. Mais je dois encore lever mon chapeau à l'adresse de quelques autres personnes, ne vous en déplaise. En première position, citons Gary Mack, conservateur du Sixth Floor Museum, musée du cinquième étage à Dallas. Il a répondu à mes milliards de questions, parfois jusqu'à deux ou trois fois avant que l'info ne finisse par pénétrer mon cerveau obtus. La visite du Texas School Book Depository fut une lugubre nécessité qu'il sut alléger par son esprit infiniment spirituel et ses connaissances encyclopédiques. Mes remerciements vont également à Nicola Longford, directrice générale du Sixth Floor Museum, et à Megan Bryant, directrice des collections et de la propriété intellectuelle. Brian Collins et Rachel Howell, qui travaillent à la section Histoire de la Bibliothèque publique de Dallas, m'ont donné accès à de vieux films, dont certains assez comiques, montrant l'aspect qu'avait la ville dans les années 1960-1963. Susan Richards, chercheure à la Dallas Historical Society, a également contribué à l'effort, ainsi que Amy Brumfield, David Reynolds et tout le personnel de l'hôtel Adolphus. Martin Nobles, habitant de Dallas de longue date, nous a promenés, Russ et moi, à travers tout Dallas. Il nous a ainsi conduits au Texas Theater, aujourd'hui fermé, où Oswald a été arrêté, à l'ancienne résidence d'Edwin Walker, à Greenville Avenue, moins sordide que le quartier des bars et des putes de Fort Worth naguère, et à Mercedes Street, où le numéro 2703 n'existe plus. Il a bel et bien été balayé par une tornade, mais pas en 1963. Et un petit salut amical à Mike, Silent Mike, McEachern, qui a gracieusement offert son nom par pur esprit de charité. Je tiens à remercier Doris Kearns Goodwin et son mari Dick Goodwin, ancien aide-de-camp de Kennedy, pour s'être prêté à mon petit jeu de questions-réponses sur les scénarios les pires, si Kennedy avait vécu. George Wallace, en 37e président des États-Unis, c'est leur idée. Mais plus j'y ai réfléchi, plus elle m'a semblé plausible. Mon fils, le romancier Joe Hill, a relevé certaines conséquences induites par le voyage dans le temps qui m'avait échappé. C'est aussi lui qui a eu l'idée de cette fin, différente et meilleure que celle que j'avais imaginée. Joe, tu déchires. Et je tiens à remercier mon épouse, ma première lectrice de choix et ma critique la plus dure et la plus impartiale. Fervente partisane de Kennedy, elle l'avait vu en personne peu de temps avant sa mort et ne l'a jamais oublié, et éternelle non-conformiste, Tabitha est du côté des théoriciens de la conspiration. Cela ne me surprend pas et ne devrait pas vous surprendre. Ai-je compris certains trucs de travers dans cette affaire ? Weps, à tous les coups. Ai-je changé certaines choses pour servir le cours de mon histoire ? Mais oui, bien sûr. Juste un exemple. Il est exact que Lee et Marina sont allés à une fête de bienvenue organisée par George Bowie, à laquelle assistaient la plupart des émigrés russes du secteur. Et il est exact que Lee avait la haine contre tous ces bourgeois de la classe moyenne qui avaient tourné le dos à la mère Russie. Mais cette réception a eu lieu 3 semaines plus tard que le moment où je la situe dans mon livre. Et même s'il est exact que Lee, Marina et la petite June ont vécu au premier étage du 214 West Neely Street, je n'ai pas la moindre idée de qui habitait l'appartement du dessous, s'il était habité. Mais c'est celui que j'ai visité, moyennant 20 dollars pour le privilège, et il m'a semblé dommage de ne pas utiliser la configuration du lieu. Et quel petit lieu désespéré c'était. Dans l'ensemble, cependant, j'ai collé à la réalité des faits. Certains vont s'insurger, disant que je me suis montré trop dur avec la ville de Dallas. J'estime au contraire que le récit à la première personne par Jake Epping m'a poussé à un excès d'indulgence, du moins par rapport à ce qu'était cette ville en 1963. Le jour où Kennedy a atterri à Love Field, Dallas était un endroit détestable. Les drapeaux confédérés avaient été hissés à l'endroit alors que les drapeaux américains flottaient à l'envers. À l'aéroport, certains spectateurs brandissaient des pancartes disant « Aidez JFK à tuer la démocratie !» Quelque temps avant, tant Adlai Stevenson que Lady Bird Johnson s'étaient vus cracher au visage par des électeurs de Dallas. Et les personnes qui avaient craché sur Mrs. Johnson étaient des ménagères de la classe moyenne. C'est mieux aujourd'hui. Mais on peut encore voir des écriteaux dans Main Street disant « Arme de poing interdite à l'intérieur du bar ». J'écris ici une postface, pas un éditorial. Mais j'ai des opinions très arrêtées sur ce sujet, surtout compte tenu du climat politique actuel dans mon pays. Si vous voulez savoir à quoi l'extrémisme politique peut conduire, regardez le film de Zapruder. Arrêtez-vous en particulier sur l'image 313, celle où la tête de Kennedy explose. Avant de terminer, je tiens à remercier encore une personne, le regretté Jack Finney, qui était l'un des plus grands conteurs et écrivains de fantastique de l'Amérique. Outre l'invasion des profanateurs, il a écrit « Le voyage de Simon Morley », qui, de l'humble avis de l'écrivain que je suis, est LE grand récit de voyage dans le temps. À l'origine, je comptais lui dédier ce livre. Mais au mois de juin de l'année dernière, une petite fille adorable nous est née, donc c'est Zelda qui a les honneurs. Jack, je suis sûr que tu comprendrais. Stephen King, Bangor, Maine.